soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait pas besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans cet évangile du troisième dimanche de carême, on a ce passage fameux et parfois difficilement compréhensible d'un Jésus qui se met en colère, fait un fouet, renverse la table des changeurs, renverse tous ceux qui d'une manière ou d'une autre étaient aux portes du temple. On est beaucoup plus habitué à un Jésus doux et humble de cœur, compatissant, accueillant les uns et les autres. Mais c'est en même temps un visage de Dieu qui nous est révélé aujourd'hui. Il y a une colère de la part du Seigneur. Et c'est intéressant de méditer sur la colère. La colère, lorsqu'elle vient de Dieu et qu'elle vise vraiment le bien et qu'elle est au service de Dieu, cette colère, au fond, elle vient de 2 choses. Premièrement, le fait de défendre un bien important. Et deuxièmement, le fait de dénoncer un mal. Le fait de se mettre en colère, c'est aussi une des manières d'aimer. Non pas cette colère qui vient parce que notre ego est blessé, notre susceptibilité n'est pas prise en compte, ou on nous a marché sur les pieds, que sais-je. Non, c'est pas cette colère-là dont je parle, c'est pas cette colère dont le Seigneur est le témoin. La colère de celui qu'il voit qu'il y a un enjeu qui est important et qui ne peut pas laisser passer cet enjeu sans lui-même se mettre en péril ou mettre en péril les autres. La colère, par exemple, d'un abbé Pierre lorsque il voit une femme morte de froid dans les rues de Paris avec son avis d'expulsion, c'est la colère qu'il a mis en route pour pouvoir fonder ensuite Emmaüs. La colère, dans ce sens-là, elle est aussi une des manières d'aimer. Bien souvent, on n'a pas tellement cette vision-là. On a une vision beaucoup plus édulcorée de l'amour, plus, on peut dire plus de la guimauve. Mais ça nous fait du bien de voir Jésus qui nous propose un amour fort, un amour qui ne transige pas avec tous les marchandages humains, un amour qui ne transige pas avec les convoitises. Et parfois même dans l'Ancien Testament, on voit Dieu lui-même qui se met en colère. Et ces passages-là, on dit, oh oui, mais c'est l'Ancien Testament, vous comprenez, il n'avait pas encore l'Évangile, etc. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce Dieu est un Dieu jaloux. On le voit très bien dans la première lecture. Hein, et le Seigneur qui est... car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. chez ceux qui me haïssent. Je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et quatrième génération. » Parfois, on ne comprend pas ce langage, mais au fond, quand il y a un enjeu pour le salut, quand il y a un enjeu pour la dignité de la personne humaine, cette colère de Dieu, cette force avec laquelle le Seigneur se manifeste, eh bien, cela nous rappelle aussi que son amour est plus fort que la mort. Nous sommes invités, frères et sœurs, aujourd'hui à nous questionner intérieurement. Où est-ce que nous en sommes au fond de notre capacité d'aimer et d'un amour qui soit fort? Est-ce que bien souvent nous ne laissons pas entraîner dans cette dérive émotionnelle qui habite la plupart de nos contemporains et qui fait du christianisme simplement le fait d'être gentil et bon? Le Seigneur nous dit c'est ça, mais c'est aussi dénoncer l'injustice, c'est aussi s'opposer à l'oppresseur, c'est aussi dénoncer tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent faire de la maison du Seigneur une maison de trafic. Parce qu'ici, il s'agit bien de ça. C'est l'amour de la maison qui meut Jésus, l'amour de la maison de Dieu qui le pousse à faire ce qu'il fait. Donc on voit bien que colère et amour ne s'opposent pas, mais au contraire, s'appellent. Parce que celui qui aime défend ce qu'il aime. Celui qui aime se protège aussi contre ce qui peut mettre en péril ce qu'il a à cœur. Ne jamais se mettre en colère, au fond, c'est ne pas vraiment tenir aux choses. Bon, on veut être consensuel, on veut au fond, oui, c'est ça, être gentil. Mais au fond, celui qui se met en colère, il positionne l'autre et lui rappelle l'importance des choses, les enjeux. Il y a des choses que l'on ne peut pas laisser de côté. Il y a des injustices que l'on ne peut pas dénoncer sans avoir d'une manière ou d'une autre une complicité avec elle. Donc on voit, frères et sœurs, qu'en ce temps de carême, ce Jésus qui expulse les marchands du temple, au fond c'était ça, il faut voir comment était construit le temple, il y avait tous des sacrifices qui étaient offerts, on se rappelle très bien la présentation de Jésus au temple, Marie et Joseph qui achètent un couple de colombes pour pouvoir l'offrir. Et c'est ça que Jésus dénonce. Il dit, attention vous, vous êtes en train de marchander avec Dieu. Alors plus j'offre un sacrifice important, plus Dieu m'écoute. Et on voit bien que ça c'est aussi en nous, cette forme de marchandage, de donnant-donnant avec le Seigneur que Jésus vient dénoncer. Il vient instaurer avec Dieu une gratuité de la part de l'homme, parce qu'il y a d'abord un don gratuit de la part de Dieu. Comme c'est beau de nous rappeler ça, de dire au fond qu'il n'y a pas cette attitude d'échange, de mercantile, on peut dire, dans le mauvais sens du terme, mais au fond, c'est vivre de la beauté de Dieu et de son amour, c'est accepter de vivre de sa gratuité. Et de soi-même, de ne pas compter, de ne pas regarder à la dépense. Au fond, à travers cet épisode, le Seigneur nous rappelle ce qu'est la grandeur d'âme. La grandeur d'âme, c'est justement arriver à se donner sans compter. La grandeur d'âme, c'est arriver à affronter les difficultés, même si c'est au prix des critiques, au prix d'un rejet, au prix d'une incompréhension. Redire ce qui fait le cœur de notre foi, redire ce qui fait la dignité de la personne humaine. Un exemple me vient, non seulement l'abbé Pierre, mais le pape Jean-Paul II, qui, lorsqu'il arrive en Haïti pour une visite pastorale, dit, il commence comme ça son premier discours, « Ici, il faut que ça change ». Justement, il était en colère. Il était en colère, il dit, on ne peut pas laisser et maintenir les personnes dans un état de pauvreté comme ça. Alors on voit que c'est des hommes passionnés la plupart du temps, c'est un homme passionné, Jean-Paul II, et puis l'abbé Pierre, et puis tant d'autres, une mère Teresa. C'est l'importance, ce qui est en jeu, qui les a mis en route. Ils n'ont pas voulu transiger. Et parce qu'ils se rappellent la gratuité avec Dieu, avec laquelle Dieu les a aimés. C'est ça qui les a mis en route. Alors au cœur de notre carême, ça pourrait être intéressant de dire, mais qu'est-ce... À quoi est-ce qu'on est vraiment attaché? À quoi on ne veut pas renoncer, hein, pour l'amour de Dieu? À quoi on est prêt à... Qu'est-ce qu'on est prêt à défendre? Où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'on veut être consensuel au point où on laisse tout passer, hein, sous prétexte d'être gentil, sous prétexte d'être, de ne pas avoir de problème, pas avoir de critique? Au fond, cet épisode-là va être un des reproches que le Sanhédrin va faire à Jésus et qui va conduire Jésus à sa passion. C'est à partir de cet épisode-là, il veut détruire le temple, il se considère plus grand que le temple. Donc on voit que le Seigneur nous invite, au fond, à nous recentrer sur l'essentiel et à mettre vraiment au cœur de notre vie ce qui compte, de redire au Seigneur dans notre vie et dans ce temps de carême, de lui redire, voilà, la prière, par exemple, pour moi c'est très important. La justice, c'est important, et je ne pourrais pas laisser commettre l'injustice sous mes yeux. Le partage, c'est important. Le soutien est important, etc. Des tas de choses qui sont très concrètes, mais si elles sont vécues à fond, font de nous des saints. C'est ça, au fond, les saints, c'est des personnes qui se sont mis en route parce qu'ils ont été habités par quelque chose de plus grand qu'eux. Et ils ont accepté de tout donner pour ça. Alors on va demander au Seigneur, et les uns pour les autres, hein, demander au Seigneur de ne pas rentrer dans cette logique du monde, dans cette logique qui s'accommode de compromission. C'est ce que dit l'apôtre saint Paul dans la deuxième lecture, parce que les Juifs y réclament des signes, les Grecs y recherchent une sagesse. Eh bien nous, nous proposons un Messie et un Messie crucifié. Alors demandons que cette force de l'amour, cette grandeur d'âme de Jésus qui l'a conduit jusqu'au don de sa propre vie, nous habite intérieurement et nous rende sensibles aux besoins de nos frères. Amen.